tous. À l'occasion du Salon de l'Agriculture, la Grande Table se met au vert avec en deuxième partie le plaidoyer carnivore du politologue Paul Ariès dans son nouvel essai « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser » chez Larousse. Il contredit la tendance et s'en prend au véganisme pour préserver l'unité du genre humain. Mais d'abord, un conte philosophique et mordant, celui de Vincent Ravalec, auteur de Sainte-Croix-les-Vaches, « Le retour d'Horace » chez Fayard, et un roman animal, « Le procès du cochon » d'Oscar Kupfan chez Grasset. Allégorie, silence des bêtes, reconstitution rurale et mise en scène judiciaire. Tout de suite, dialogue d'écrivains sur France Culture, à réécouter plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Auteur déjà de Cantique de la racaille, prix de Flore en 1998, et d'un premier volet de Sainte-Croix-les-Vaches, paru l'an passé, il vient de donner une suite à sa saga rurale, peuplée d'agriculteurs et de néo-ruraux. Un condensé de la folie de notre époque où les habitants doivent faire preuve de créativité pour survivre dans ce village reculé, perdu entre causses, forêts et montagnes. Avec un trafic de bœufs bio, avec un maire qui veut faire revenir le sperme précieux d'un taureau appelé à se répandre pour faire troupeau et préserver la tranquillité du village, avec des politiciennes en herbe qui veulent mettre Sainte-Croix en marche derrière le mouvement En Avant, qui se prépare à accueillir le président et se demande avec les habitants comment résoudre le gap, en anglais dans le texte, entre urbanité et ruralité. Bonjour Vincent Ravalec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les deux pieds dans la France macronienne, Sainte-Croix-les-Vaches, ce deuxième volet, est une saga à portée universelle pour vous ?
Un petit peu, ouais. En fait, elle est née... Alors déjà, je voudrais vous féliciter de la manière dont vous avez résumé le livre et le projet, parce que c'est absolument magistral, je ne ferai pas mieux.
Sans donner la fin.
Oui, sans donner la fin. Je suis urbain, je suis né à Paris, j'ai toujours habité Paris, j'ai écrit beaucoup de livres qui étaient imprégnés de la vibration urbaine, et depuis à peu près un peu plus de 20 ans, en fait, je me partage entre... une partie de mon temps, en fait, je suis en province, dans un petit village. Et j'ai vraiment pu ressentir physiquement, à chaque fois que je prends le TGV et que j'en descends, c'est-à-dire que j'arrive à Paris ou j'arrive dans ma petite, tout petit village qui est à peu près il reste 200 âmes votantes à peu près, qui ne cesse de s'effriter au fil des ans. J'ai vraiment pu ressentir ce gap-là que vous avez évoqué de manière, sur tous les plans, aussi bien physiquement, intellectuellement, dans ma sensibilité, dans ma relation au monde. Et je pense qu'évidemment, enfin, je suis pas le seul à le constater, qu'il y a vraiment là une fracture qui est, qui se retrouve partout. Enfin, je pense que j'ai pas mal voyagé aussi. On est dans un monde aujourd'hui qui est tout de même abominablement complexe, où il y a des gens d'une part qui sont en train de construire des fusées pour partir dans les étoiles, et d'autres gens qui vivent encore comme on vivait il y a pas 300 ans, comme on vivait il y a 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ans. Et que cette opposition nature-culture, elle est décisive et qu'elle est décisive en fait à penser. Alors, évidemment, comme je suis écrivain, je suis quelqu'un du récit et la fiction pour moi c'est important. Et je pense que le penser en termes de fiction et redonner un imaginaire à ça à travers des livres et des romans était pour moi important. Et donc, bon, bah, j'ai essayé d'en faire des livres un peu cocasses et drôles et qui soient effectivement une peinture à la fois sociale, une peinture d'époque, une peinture politique et aussi qui pose en germe les questions que tout ça me pose à moi en tant que bobo parisien, un peu néo-rural.
Un peu des deux. Une portée universelle, tout comme le procès du cochon, allégorie de la justice des hommes. Un pauvre bougre errant et affamé croque les joues et l'épaule d'un bébé. Rapidement rattrapé, le paria, ce monstre, va être placé en détention, jugé et condamné à mourir dans d'affreuses souffrances. Cinquième roman d'Oscar Kupfan, bonjour.
Bonjour.
L'auteur de ce crime, c'est un cochon, il est désigné comme tel, mais qu'à la toute fin du roman, pourquoi avoir joué de cette ambiguïté? Pourquoi lui prêter un corps, une peau, des émotions, des réactions presque humaine. Pourquoi ? Pour qu'on s'identifie à lui ?
Écoutez, au départ, c'était une espèce de jeu littéraire pour moi, quoi, parce que je me suis rendu compte que je pouvais assez facilement en parler, justement jouer sur les dents, des espèces de descriptions comme ça. Donc, je regardais beaucoup d'images de cochons, parce que, comme vous, Vincent, moi, je viens de Paris, je suis hyper urbain, peut-être un peu néo-rural aussi, je sais pas. Mais en tout cas, l'animalité, si vous voulez, à part des chiens et des chats et des poissons rouges, moi, j'en ai connu assez peu. Donc, je l'ai découvert ça à travers mes recherches quand j'ai décidé d'écrire sur cette histoire-là, sur cette curiosité judiciaire. Et je me suis aperçu que je pouvais dire plein de choses. Grâce à ça et en partie essentiellement en fait surtout le rapport au langage, et c'est ça qui m'intéressait parce que justement là le langage est bloqué, donc on voudrait que le coupable avoue, au moins qu'il se défende et tout ça. Et là, évidemment, avec l'animal, ça coince. Donc, en fait, c'était surtout ça qui m'intéressait avant l'animalité, je veux dire.
Vous dites curiosité judiciaire, mais c'est aussi une curiosité historique. Ça semble surréaliste, le procès d'un cochon, fruit de votre imagination. Mais non, entre le 12e et le 18e, ça a bel et bien existé, des procès d'animaux, comme nous le rappelle l'historien Michel Pastoureau, auteur de « Le roi tué par un cochon ».
Cette parenté trop forte entre l'être humain et le cochon entraîne une attirance, bien sûr, mais aussi des rejets, des tabous. Manger du porc, c'est presque être cannibale. Et dans les procès faits aux animaux, qui sont assez nombreux en Europe du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, on conduit des animaux qui ont commis crime ou délit au tribunal. 9 fois sur 10, c'est le cochon qui est conduit au tribunal. Alors, il y a différentes raisons, matérielles par exemple. Les cochons sont vagabonds, aussi bien en ville qu'à la campagne. Ce faisant, ils occasionnent de nombreux accidents. Ils pillent des boutiques, dévastent des jardins, renversent des enfants, parfois commencent à dévorer un nouveau-né. Donc, on les conduit au tribunal avec l'idée que ce sont des êtres responsables, peut-être capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal. L'animal est responsable, pas le propriétaire de l'animal. Donc ça implique une proximité entre l'homme et la bête beaucoup plus grande que celle que nous vivons nous aujourd'hui. Il y a un procès qui dure plusieurs jours, on leur donne un avocat, on paye un gardien le temps du procès, il faut les surveiller et les nourrir, on les juge. Et soit ils sont acquittés, soit ils sont condamnés, et parfois c'est la condamnation à la pendaison suivie du bûcher. Mmh. Et je suis fasciné de ce que 9 fois sur 10, l'animal conduit au tribunal, c'est un cochon.
Voilà, des procès d'animaux, on y jugeait les bêtes à l'époque. Est-ce qu'ils avaient les mêmes droits qu'un justiciable ordinaire? Est-ce qu'ils étaient, de ce que vous en savez, Oscar Kupfan? Parce qu'on imagine que ce roman a été précédé de pas mal de recherches, documentation. Pourquoi étaient-ils jugés? Qu'est-ce qu'on leur reprochait?
Alors, il y avait, enfin, les historiens ont pris l'habitude de différencier deux types de procès intentés aux animaux. Donc, tous les animaux dits classiques, j'entends par là des cochons, des chevaux, voilà, des animaux communs, dirons-nous. Et il y avait tous les animaux nuisibles, qui eux ravageaient des récoltes, donc c'était des mulots, mais ça a été aussi des dauphins dans le port de Marseille et tout ça. Et là, c'était le tribunal ecclésiastique qui s'en occupait, parce qu'en fait, on convoquait les animaux, évidemment, donc les mulots étaient convoqués au tribunal ecclésiastique, ils ne venaient pas, et donc là, ils étaient excommuniés, évidemment. Mais en revanche, donc pour tout ce qui est cochons, chevaux et tout, comme je le disais, là, c'était tribunal plus laïque, donc ordinaire, et oui, on suivait la même procédure, donc il y avait des avocats, des témoins, des juges. Les avocats, alors ça dépendait, mais bon, disons que la plupart du temps, il y avait des avocats qui défendaient l'animal, commis d'office évidemment, sans doute. Et puis là, oui, on organisait toute la, disons, la mise en scène judiciaire classique qu'on connaît, quoi.
Ils avaient une âme, une conscience, des émotions, et donc pouvaient être jugés responsables à cette époque-là. Aujourd'hui, vous nous racontez cette histoire, ce procès du cochon. Ça paraît très kafkaïen à penser peut-être que nos perceptions dans notre relation entre les hommes et les bêtes ont beaucoup évolué.
Alors, oui, deux choses. Alors, je reviendrai sur Kafka après, parce que ça m'a évidemment beaucoup aidé dans l'écriture de ce livre. Mais si vous voulez, aujourd'hui, si un chien mord un enfant dans la rue, disons qu'il le tue, c'est impardonnable, on appelle ça un accident, quoi. Donc on dira que c'est malheureux, que c'est un drame, mais ça serait un accident.
En tout cas, c'est le maître qu'on jugera et pas l'animal, éventuellement.
Oui, le maître serait jugé, mais le chien serait piqué aussi. C'est-à-dire que donc il y a quand même une mise à mort qui est plus honteuse, qui est plus cachée, mais si vous voulez, comme dans la justice des hommes, alors ça c'est Foucault qui en parle évidemment mieux que moi, mais où à un moment la justice était très éclatante et puis au bout d'un moment elle a commencé à se cacher, donc à rentrer à l'intérieur de l'enceinte des prisons et tout ça. Avec le chien qui est piqué aussi, il y a une grande différence, c'est-à-dire qu'il est coupable d'office. C'est-à-dire que là, certains animaux étaient innocentés. Alors c'était rare, mais ça c'est arrivé, quoi.
Kafka?
Ah oui, pardon, j'avais oublié Kafka. Non, non, bah évidemment, il y a la tradition de la fable animalière de Kafka. Je pense à la Métamorphose, au Terrier, voilà. Mais et là où ça m'intéressait, moi, justement, comme je disais dans ce livre, c'est le rapport au langage. Et si vous voulez, chez Kafka, il y a ça dans le procès. Alors K parle énormément, mais comme personne l'écoute, ça bloque, quoi. Donc c'est comme chez Melville dans Bartleby, quoi. Donc il y a ce rapport au langage dans la justice, moi, qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai décidé, effectivement, enfin mon point de départ, oui, était. C'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à cette histoire et d'en faire un petit livre.
Parce que le cochon est silencieux, le cochon ne s'exprime pas, et même si on attend lui des réponses sur le pourquoi, il ne peut les formuler. C'est un théâtre de l'absurde que vous mettez en scène, vous, Oscar Koopfan, dans ce procès du cochon. Quant à vous, Vincent Ravalek, c'est vraiment le romancier qui devient metteur en scène de ce roman fable que vous avez pensé en deux volets pour l'instant, dans un troisième qui suivra prochainement. Vous avez fait de ce village de Sainte-Croix une scène de théâtre, et je vous cite: il y a bien quelque chose de propre au théâtre qui semble depuis toujours avoir accompagné la civilisation, c'est l'importance de la mascarade. La mascarade était la pierre angulaire sur laquelle se construisait un bon bullshit, ce qui le différenciait d'un banal mytho. Le décor, mais aussi les coulisses, les masques, les faux, vous avez joué à tirer tous les fils dans ce village que vous ne reconstituez pas, mais que vous vous inventez, Sainte-Croix-les-Vaches. Vincent Ravalek.
Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis un vrai bobo parisien. J'ai accès au monde, pas au monde vraiment politique, mais je connais tout de même beaucoup de gens. Je vois un petit peu comment les choses fonctionnent. Et c'est vrai que ce côté théâtral, c'est fake en permanence, ces gens qui disent jamais vraiment la vérité. On est, enfin, je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais moi, je travaille beaucoup dans les milieux culturels, notamment dans le cinéma. Beaucoup de gens ne tiennent pas parole, on est toujours dans des rapports de un peu ambivalents de pouvoir. Et là, ce qui est drôle, en fait, c'est que les deux mondes vont se confronter et que les, en l'occurrence, c'est les filles, là. Il y a donc deux filles qui arrivent de Paris, qui sont alors là, pour le coup, des vraies, elles se présentent à la députation. Elles arrivent chargées de toute leur ruse, de toute leur malice de parisienne. Et elles pensent avoir affaire, en fait, à des personnages qui sont un peu naïfs et un peu rustres. Et en fait, pas du tout. Les deux, en fait, sont dans un théâtre. Les deux sont dans une espèce de demi-mensonge. Les deux sont dans une espèce de logique d'intérêt. Et finalement, j'ai reconstitué une espèce de petite comédie humaine à mon niveau dans ce cadre champêtre, avec justement ces ingrédients qui sont, qui ne peuvent pas ne pas nous questionner aujourd'hui, même quand on habite en plein Paris.
C'est une campagne idéalisée, conforme à ce que, ou à l'image que les urbains s'en font, ni trop sauvage, ni trop primitive que vous imaginez. La présidente, par la voix de son sherpa, faisait savoir qu'elle souhaitait se rendre personnellement à Sainte-Croix-les-Vaches afin de rencontrer tous ces paysans formidables qui apparaissaient dans le film pour éprouver par elle-même la réalité du terrain. Ce serait une visite en toute discrétion, sans médias, de façon à préserver l'authenticité des relations qui s'étaient créées, écrivez-vous, Vincent Ravalek. Quand vous pensez ce genre de phrases, qui ne sont peut-être pas très loin de la réalité, de ce que vous entendez dans ces milieux-là, au fond de vous-même, vous vous dites que c'est la déconnexion des politiques qui est, elle, authentique.
Alors déjà, petite anecdote rigolote, ce fait-là précis m'est venu l'année dernière, quand le premier tome de Sainte-Croix-les-Vaches est sorti. J'ai fait une émission ici, dans la maison de la radio, avec quelqu'un qui avait vraiment vécu ça, qui était agricultrice, et donc la femme du président était venue dans sa ferme, en toute discrétion, les tweets et les Instagram n'étaient que prévus pour après, mais pas avant, donc elle venait incognito, et effectivement, c'est pas très loin de la réalité. Du coup, j'ai perdu, qu'est-ce que vous me demandiez?
Est-ce que cette déconnexion des politiques vous paraît authentique?
Je pense qu'il y a plus que la déconnexion des politiques. Je pense que déjà, encore pour redire ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on est déconnecté physiquement quand on habite en ville. On est déconnecté physiquement de choses qui sont très importantes, c'est nos corps biologiques, qui sont tout de même le fruit d'une évolution, mais je veux dire, qui est hallucinante. Je veux dire, quand on voit l'histoire de la première cellule pour arriver à l'être humain, et c'est qu'on a vraiment des choses qui sont profondément ancrées en nous. Et ça, avec l'urbanisation, tout de même, on s'en coupe de manière assez radicale. Aujourd'hui, moi je vous dis, avant de redécouvrir ce truc de la nature et de la campagne, j'avais une très vague idée que ça existait. Donc je pense qu'il y a quelque chose intrinsèquement qu'on a perdu. Et en plus, je pense que quand on est dans un milieu aussi sclérosé, il faut le dire, que le milieu politique, enfin tel qu'en tout cas qui m'apparaît moi de loin, et je pense que c'est l'impression que ça donne à beaucoup de citoyens aujourd'hui, c'est pratiquement comme deux mondes qui n'ont plus de capacité de presque d'échanger, quoi. Et malheureusement, on s'en est rendu compte assez récemment. Je crois qu'il y a une fracture, on ne cesse de le dire, qui est, c'est un peu le but de ces livres aussi, c'est de, même si mon truc est un peu délirant, un peu marrant, un peu cocasse et tout ça, il y a en tout cas la volonté de recréer une scène du théâtre où des choses se passent, quoi. Même si c'est sous, alors, ils font pousser de la bobio, les politiques sont un peu olé olé, ok, mais je veux dire, au moins, il y a un truc qui se passe, il y a un échange, il y a un espèce de bouillonnement, et je pense que c'est ça le, je vois pas d'autre solution pour nous que de se, que d'inventer des fictions. Et des fictions qui sont qui permettent des choses. En tout cas, c'est plus une façon aussi d'ouvrir un possible, évidemment, de raconter des trucs drôles et marrants et que ce soit un bon roman. Mais il y a tout de même cette volonté là derrière.
Il y a une part de fiction chez vous aussi, Oscar Koopfan. Vous l'avez mise où, entre les lignes?
Si, c'est un roman. Alors, on l'a pas précisé sur la couverture parce que effectivement, dans quelle mesure c'est un roman à partir du moment où on part d'un fait historique avéré, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais tout le ce fait divers là, disons, je l'ai inventé. Alors, il se trouve que il y en a des similaires. Globalement, oui, effectivement, comme on entendait tout à l'heure dans l'enregistrement de Pastoureau. La plupart du temps, dans les procès d'animaux, c'était des cochons. La plupart du temps aussi, c'est parce qu'ils tuaient des bébés, parce que c'était quelque chose d'impardonnable. Enfin, bon, on imagine le drame. Donc, j'ai pris ces éléments, disons, les plus communs. Mais après, le reste est inventé. Mes portraits de personnages sont inventés, oui.
Mais c'est une fable aussi. C'est un roman qui nous interroge sur le regard qu'on porte sur les autres, qu'on porte aussi sur l'exclusion, qui nous appelle à nous identifier à cette personne qui nous semble si extérieure et qui est en réalité un cochon. Le choix de la fable, vous l'avez fait l'un et l'autre, vous dans une vingtaine de chapitres, Vincent Ravalec. Si on lit les titres, on entend, on voit entre le polar et le cocasse qu'il y a aussi de la poésie et la fable. Je les lis à la queue-leu-leu, les titres de ces 20 chapitres. L'hiver était venu et la bise soufflait, chuchotant aux fantômes d'un rire moqueur et glacé, le souvenir hanté des légendes du passé, des trésors et des fées. C'était un pays étrange où l'on aimait rêver aux rois, aux reines, au fil de destinée. C'était une contrée sauvage bordée par les montagnes. On y croyait encore à des chimères, à des mirages. On consultait l'avenir, attentif aux présages, voyant dans ce théâtre posé sur l'horizon un avenir radieux.
Mais qu'est-ce que c'est beau !
Oui. Hein ? Mais oui, ce que j'allais dire.
Un avenir radieux, vous pensez qu'il y a une utopie encore vivante aujourd'hui qui peut laisser entrevoir un avenir radieux à cette situation, cette fracture ?
Ça, je pense que c'est la grande question, en fait. Là, on est en carence de mythe, on est en carence d'utopie, quoi. J'ai dire, la seule utopie qu'on a aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Il n'y a pas de, il y a rien avec lequel on peut se projeter dans le futur. La Terre va mourir, c'est la cata partout. On va tous, on va être empoisonnés. Il y a des pesticides. Enfin, partout où on tourne ce regard, on voit pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Moi, tous les gens avec qui je discute, c'est ouais, on va dans le mur. On va dans le mur, voilà. Donc, je pense que fondamentalement, il y a vraiment quelque chose à. Ah, je sais pas inventer. Enfin, moi, je peux pas me résigner comme ça, quoi. J'ai à rester sur mon cul et à me dire, voilà, on va tous mourir, quoi. Et on va tous sombrer. Quelle cata, quoi. C'est impossible, quoi. Je n'y arrive pas psychologiquement, quoi. Donc, d'où ce livre. Et je pense que oui, il faut inventer des utopies. Je sais pas lesquelles, mais il faut se creuser un peu la tête, se creuser le ciboulot, et puis faire des livres, des films. Et que en tout cas, je pense que les artistes ont vraiment une grosse part de responsabilité là-dedans, quoi.
Oscar Koopfan, la cruauté des hommes, elle se poursuit sans fin avec le jeu des aveugles en épilogue de votre roman où il est proposé à 10 mendiants aveugles de battre un cochon. S'ils réussissent, ils pourront le manger. Dans l'arène, ils se retrouvent là, ils essayent avec leur grand bâton d'avoir le cochon, sauf que ils finissent aussi par se rentrer dedans, certains meurent écrasés, le crâne fracassé, et puis finalement, vous l'écrivez, le petit frappe l'animal à la tête, c'est fini, le petit a gagné, les spectateurs se dispersent, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Cette violence du monde, c'est aussi ce qui se répercute dans le prétoire au moment du procès, ce qui se répercute à l'extérieur à travers cet épilogue. Elle est sans fin.
Bah oui, pour parler de cet épilogue, en fait, en faisant mes recherches sur les procès d'animaux, j'ai trouvé cette autre curiosité-là, qui en revanche se passait essentiellement dans les villes. Pour le coup, c'est vraiment que au Moyen-Âge, mais dans toute l'Europe, donc il y a des occurrences essentiellement en Allemagne, en Italie et en France, mais il y en a aussi quelques-unes en Espagne, je crois. Donc, comme vous le disiez, on prenait des aveugles, on les mettait dans une espèce de ring, ça se faisait en période de carnaval, comme une piñata, quoi, et on leur disait, si vous tuez le cochon qui est au milieu du ring, vous le gagnez, donc de quoi manger pendant des mois et des mois. Mais en revanche, il y avait évidemment des accidents, parce que les pauvres hommes étaient aveugles et se tapaient les uns sur les autres. Et donc, c'était vraiment, ça se faisait en période de fête, quoi. Donc, il y avait ce rapport-là à la foule. Et j'ai voulu, moi, le placer en épilogue de ce livre, parce que je trouvais que ça disait d'une certaine manière un peu la même chose. Alors, évidemment, il y a le cochon, mais pas que ça. Il y a le rapport à la foule et au spectacle, en fait, qui m'intéressait. Voilà.
Au regard.
Oui, au regard, et puis tout, on a envie de voir ça. Moi, j'ai un rapport très étrange aux faits divers, c'est-à-dire que je suis fasciné par ça, je les suis, je les lis, je les écoute. J'adore ça, en même temps, c'est tout à fait malsain. Je sais pas pourquoi on a... Globalement, enfin, c'est quelque chose d'assez partagé, hein. Je suis pas le seul à avoir une passion pour les faits divers. Et c'est quelque chose que j'explique pas.
Cette fascination qu'on peut avoir.
Oui, on a envie de regarder, aussi. On a envie de savoir, on a envie de comprendre.
On a envie de comprendre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas aussi.
Oui, peut-être.
Se raconter des histoires, ça semble être une nécessité pour vous tous. Ça l'était aussi pour le romancier Pierre Jourde, auteur de Pays perdu.
On a pu croire que Pays perdu, c'était une manière d'éloge du retour à la terre. C'est en quelque sorte une littérature régionale qui pouvait vanter la vérité de la paysannerie, de la... Or, c'est tout le contraire. Je voulais décrire à quel point, dans ces petits villages, dans ces petits hameaux, on était contraint, là encore, de se fabriquer une vie imaginaire, de se raconter des histoires. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce cas de figure, c'est que j'ai raconté un secret. Alors, pourquoi l'ai-je raconté ? Parce que c'était une histoire, comme toutes les histoires que je racontais, qui faisait pas appel au réalisme, mais en quelque sorte à la dimension mythologique de ces existences. Je voulais décrire ces vies à la fois sur le mode du mythe ou de l'épopée. Les personnages de paysans sont des dieux ou des demi-dieux, et comme tels, ils sont des bêtes, ce qui a pu engendrer aussi un certain nombre d'incompréhensions, puisque les dieux sont des bêtes, bien entendu. Et cette histoire est une histoire qui est conforme, au fond, à une espèce de mythe.
Voilà, sur notre besoin de mythologie, sur les mythes qui se créent et qu'on retrouve avec un clin d'œil. Et votre personnage Médée, notamment Vincent Ravalec, vous êtes intéressé par les chamans, la magie. Et vous écrivez dans ce deuxième volume de Sainte-Croix, c'est aussi parce qu'on croit à quelque chose que cela finit par se réaliser. Ça, c'est Daphné qui le dit. Comme vos personnages, vous croyez au pouvoir de la fiction.
Ah oui, parce que je l'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure. Oui, enfin, je non seulement j'y crois, enfin, c'est j'en suis imprégné, quoi. Je pense vraiment qu'on est du verbe avant toute chose, que sans récit, je veux dire, il y a rien qui existera autour de nous. Et je pense que la magie existe. Et pour faire une petite aparté aussi, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé au chamanisme, aux cultures archaïques comme ça. Ça m'a permis aussi de, en même temps que je suis parti habiter un petit peu à la campagne, de voir aussi qu'on pouvait avoir un tout autre rapport avec la nature, mais un rapport qui est même pas concevable en fait quand on est urbain. Et là, on parle d'écologie aujourd'hui, mais ça existe encore un petit peu, je pense de moins en moins, mais des manières de voir le monde où le moi moderne et l'interface qu'il établissait avec son environnement, en l'occurrence la nature, n'est pas du tout le même que celui qu'on peut se penser aujourd'hui. Il y a encore des traditions où on est vraiment dans un espèce d'écosystème sensible, en fait. Il n'y a pas de différence entre l'oiseau qui chante, ce qu'on est soi-même. Enfin, on est plus dans des espèces d'interactions d'énergie qui sont en fait très intéressants pour se penser, pour penser le monde aujourd'hui. Ça m'a beaucoup intéressé. Et du coup, je tenais beaucoup à mettre dans Sainte-Croix-les-Vaches, il y a un personnage effectivement de rebouteux qui lui est encore connecté à ça, c'est vrai qu'il est sous une forme un petit peu cocasse comme tous les autres personnages, mais ça me semblait important aussi qu'il y ait une trace de ça et ce personnage-là, il est catastrophé parce qu'avant il y avait encore des fées dans les causes qui étaient dans les rochers, et là depuis qu'il y a les machines, les fées elles partent. Et je veux dire, je crois que notre imaginaire façonne le monde et que effectivement ce à quoi on croit fait qu'aussi elles arrivent et qu'elles persistent. Et là, nos croyances aujourd'hui sont tout de même assez un peu spé, je trouve, quoi.
Nos imaginaires façonnent le monde. Oscar Kupfan, vous êtes d'accord avec ça. On sent aussi que chez vous, on est tous prédestinés, prédéterminés, du bourreau à l'avocat. Chacun est assigné quand même à cette place et peine à s'en sortir. Il reproduit ce pourquoi la société l'aurait désigné.
Oui, en tout cas, ils jouent leur rôle, quoi. Après, est-ce qu'ils sont prédestinés, je ne sais pas. En tout cas, oui, ils sortent pas de leur rôle. Après, par rapport à ce que vous disiez sur la fiction, moi, c'est aussi pour ça que j'ai essayé de travailler un peu sur le flou dans ce livre-là. Je trouve que c'est quelque chose que permet le roman, qui est plus compliqué, j'imagine, au cinéma, enfin, j'en fais pas, mais quand on a des costumes, c'est immédiatement daté, des décors et tout ça. Dans un livre, c'est peut-être plus facile, en tout cas, de jouer sur ce flou-là. D'où, par exemple, la métamorphose de Kafka dont on parlait tout à l'heure. C'est très compliqué d'adapter la métamorphose en film, parce que comme on ne sait pas exactement quel est l'animal, voilà. Donc voilà, moi j'ai essayé de jouer sur ce flou-là, effectivement, d'époque, de lieu, et puis jusqu'au protagoniste principal, sans jamais clairement spécifier que c'est un cochon, si ce n'est dans le titre. Alors peut-être que je me suis trompé en le spécifiant dans le titre, je ne sais pas.
Ah, non.
Moi j'aime bien comme ça, mais...
Oui, parce voilà, que c'est une ambiguïté... qui est en même temps clarifié dès le départ. Et,
oui,
et...
avec la symbolique du cochon, effectivement. On sent... ce qui est très étrange, d'ailleurs, parce que le cochon est un animal plutôt propre, plutôt chaste. Donc le porc d'aujourd'hui, c'est assez particulier. Ouais.
Si tant est que nous soyons sûrs de sa culpabilité, dit l'avocat, tout cela n'a été que très vaguement prouvé. Mais passons, disant qu'il est coupable, est-il pour autant responsable, j'insiste ici, est-il responsable quand on ne prend pas la peine de comprendre? Peut-on juger d'une responsabilité? Regardez-le, imaginez sa vie. Il erre nu sur les routes. On l'a frappé, on l'a chassé toute sa vie, on l'a méprisé. On ne l'a jamais rendu digne et maintenant, on l'estime digne d'être jugé. Non, ça ne va pas. Et là revient l'aspect très kafkaïen aussi de ce roman que vous avez écrit, Oscar Kupfan. Ce « ça ne va pas », vous l'appliqueriez à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Qu'est-ce qui ne tourne pas?
Oula, j'aurais plein de choses. Qu'est-ce qui ne tourne pas? Qu'est-ce qui tourneront? Je ne sais pas. Est-ce que je... Bon, en tout cas, sur le problème judiciaire, alors, moi, c'est quelque chose que j'effleure, hein, parce que je suis ni dans un travail judiciaire, j'ai jamais été confronté personnellement à la justice, pour l'instant, heureusement. Qu'est-ce qui tourne pas? Je sais pas. En tout cas, sur le rôle d'accusé, il y a quelque chose de très particulier où on attend quelque chose de l'accusé. Je pense au premier livre de Roger Grenier, qui s'appelle justement Le rôle d'accusé. Et on attendrait justement cette espèce de honte un peu défendante, voilà, comme si d'un coup on expie un péché. Et oui, on attend quelque chose de l'accusé, comme on attend quelque chose de nos rôles dans la société, quoi. Moi, on attend, en tant qu'écrivain, que je dise telle et telle chose. Et en même temps, je ne sais pas qui je suis au milieu de ça. Enfin,
Voilà, vous choisissez le silence, vous avez le droit aussi. Hein. Alors, on sait à travers la lecture de Sainte-Croix-les-Vaches, Le Retour d'Horace, volume 2, que votre livre de chevet à vous, Vincent Ravalec, c'est probablement Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq, comme celui de Thomas, le maire du village. Et on comprend que pour vous, Oscar Kupfan, votre livre de chevet, c'est Kafka. Alors, on prend Le Procès ou la Métamorphose. Qu'est-ce que vous gardez?
Les deux, mais Le Procès, voilà. C'était celui que j'ai le plus lu.
Oui. Voilà, en attendant, oui. On peut mettre à côté de notre livre vos deux nouveaux romans, Le procès du cochon chez Grasset, c'est signé Oscar Kupfan, et Le retour d'Horace. Il faudrait peut-être se procurer le volume 1 pour ceux qui ne l'ont pas lu, même si vous nous rappelez au tout début ce qui s'y passe. Vincent Ravalec, Le retour d'Horace, Sainte-Croix-les-Vaches, numéro 2. Vous restez avec nous, Vincent Ravalec, pour la deuxième partie où nous rejoindra Paul Ariès. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.